Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Mercredi 13 mars 2024, nous sommes au CIMI, c'est le deuxième jour de ce salon. C'est au MIPIM, du coup, c'est mieux quand même, hein, parce que CIMI, c'est fin d'année, et là, non, nous sommes au mois de mars, le printemps arrive, c'est quand même beaucoup mieux que le CIMI, on est au MIPIM à Cannes. Et puis, bah, Sylvain, on clôture cette matinée du deuxième jour en très très bonne compagnie.
Ah, on pouvait pas faire mieux. Hein.
Je crois que c'était difficile de faire mieux.
Il nous fallait un grand monsieur de l'immobilier, il est avec nous sur le plateau, on a beaucoup de plaisir et d'honneur à le recevoir.
Exactement, voilà. Xavier Lépine, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors, je ne sais pas si on a besoin de vous présenter, je ne pense pas, mais bon, vous êtes ancien CEO de La Française, vous êtes chairman de l'IEIF, vous êtes chairman de Paris, Île-de-France Capital Économique, de la Société des Nouveaux Propriétaires. Vous êtes intervenu lundi sur la crise de l'immobilier au sens large et du logement que l'on subit en France actuellement. Est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots de cette crise ?
Cette crise, en fait, elle était en même temps attendue et inattendue.
C'est vrai que ça faisait quand même 2-3 ans qu'on l'attendait.
Oui, en fait, l'actif immobilier est un actif très particulier. Parce qu'en fait, par rapport à, je sais pas, une industrie quelconque, où on voyait tout à l'heure nos amis qui font des plateformes digitales, etc., des modèles SaaS qui, finalement, peuvent croître par elles-mêmes et avoir des gains marginaux croissants, pour les activités modèle SaaS et des gains marginaux décroissants pour des activités industrielles. La problématique de l'immobilier, c'est qu'il n'a pas de dérivée première dans son modèle. Vous achetez un immeuble de bureau, vous le louez, vous avez des locataires. Vous pouvez peut-être mettre un peu plus de locataires dedans, mais vous ne pouvez pas acheter une machine outil qui fait d'un seul coup des nouveaux produits. Donc c'est purement un modèle de rente, au sens non péjoratif du terme, mais du sens propre du terme, j'ai un actif qui me génère un revenu. Il s'est trouvé que, et ça c'est vrai aussi bien de l'immobilier tertiaire que de l'immobilier de logement, c'est-à-dire qu'un mètre carré aujourd'hui sera toujours un mètre carré dans 20 ans, et était un mètre carré il y a 20 ans. Donc il n'y a pas de gain de productivité. Or, pour produire cet immobilier, on est confrontés tous à la même problématique, qui est la rareté du foncier, parce qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on se regroupe dans des villes. On est confronté également au fait que, eh bien, produire de l'immobilier, c'est de la main-d'œuvre. Il en faut toujours à peu près autant. C'est des matériaux de construction. Là aussi, bah, ils augmentent. Et c'est une augmentation des normes qui vient se rajouter à cela, qui est logique du fait du réchauffement climatique. Donc ça ne peut qu'augmenter. Et d'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire de l'indice du coût à la construction, qui ne prend même pas en compte le coût du foncier, eh bien, il a augmenté, d'abord depuis 1953 qu'il existe, il a augmenté pratiquement tous les ans, sauf 2 années, et de manière structurelle, plus que l'indice de l'inflation. Parce que l'inflation embarque évidemment bien d'autres biens que les biens immobiliers qui, eux, une fois de plus, n'ont pas de rendement autre que celui d'un loyer. La résultante de cela, c'est que pendant les 15 dernières années ou les 20 dernières années, les taux d'intérêt, donc on le sait, ont baissé pour de multiples raisons. La globalisation, l'euro, ensuite les crises financières qu'on a eues, puis la crise Covid. Et donc l'immobilier était un actif très intéressant, puisque finalement, c'est un actif qui est une intensité capitalistique extrêmement élevée, puisqu'il faut financer tout cela, avec un revenu qui, lui, peut augmenter, mais moins vite. Donc, au total, c'était un actif très intéressant. En même temps, il ne génère rien d'autre. Mais c'est très bien comme cela.
Oui, c'est ce qu'on vient rechercher.
C'est ce qu'on vient rechercher. Le problème, c'est quand ça ne marche plus. Alors pourquoi ça ne marche plus ? Parce que, comme tout modèle, on le pousse jusqu'au bout. On le pousse jusqu'au bout, c'est-à-dire on joue tant qu'on peut jouer. C'est un peu comme au casino, y en a qui mettent de l'argent de côté pour rejouer demain, et puis d'autres qui se disent, finalement, non, on va continuer à jouer encore plus. Et on va se distribuer des dividendes pendant ce temps-là, et ça sera très bien. Et c'est vrai que l'immobilier était un peu... le secteur de l'immobilier en tant que tel était un peu un pouce au crime.
Ça veut dire qu'il est plus attractif aujourd'hui ?
Oui, c'est difficile de trouver son attractivité aujourd'hui, parce que finalement, les prix ont beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté parce que, alors on peut parler du tertiaire une minute et on passera au logement après, bah, les prix, les entreprises elles-mêmes pouvaient payer des loyers beaucoup plus importants, puisque finalement l'entreprise qui occupe les locaux, elle, a des gains de productivité. Donc effectivement, on peut arriver à se dire, bah, je vais louer dans Paris des locaux à 1000 euros du mètre carré, mais c'est pas grave parce que le trader qui est dedans ou le salarié qui est dedans,
oui, il produit beaucoup plus.
Il produit beaucoup plus. Donc il y a un équilibre financier entre finalement ce que peut payer l'entreprise comme loyer par rapport à la qualité du bien. Donc tout ça est très bien. Maintenant, en immobilier tertiaire, on est confronté à ce que j'appelle les 3 T. Bah, le premier T, c'est comme tout l'ensemble du secteur est concerné par la hausse des taux d'intérêt qui a été objectivement beaucoup plus violente qu'attendue, mais à un moment donné, ça se serait manifesté, mais peut-être pas dans cette ampleur ou cette rapidité. Donc ça a été extrêmement violent, ça touche tout le monde. Le deuxième T, bah, c'est le taux d'occupation. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de pays dont la France fait beaucoup de télétravail. Donc oui. Est-ce que j'ai besoin d'autant de bureaux ?
Il y a un taux de vacances qui est en hausse continuelle.
Bah, à partir de ce moment-là, oui. Alors on a l'avantage, c'est que ça prend du temps, parce qu'on a des beaux commerciaux à 9 ans. Donc,
mais est-ce que c'est de la vacance, ou est-ce que ce ne serait pas peut-être le fruit d'une surproduction de bureaux ? Est-ce que le périmètre, finalement, d'utilisation de bureaux aujourd'hui, quand on voit le stock, ne devrait pas être à revoir à la baisse compte tenu des nouveaux usages du travail ?
Bah, c'est toute la question qui se pose. Quel bureau veut dire pour qui,
oui, et pourquoi faire ?
Et pourquoi faire ? Donc effectivement, ce qui veut dire que ce deuxième T du taux d'occupation pose la problématique macroéconomique, si je puis dire, du nombre total. Ensuite, eh bien, on va choisir ses bureaux de façon optimum pour celui qui les loue. Et quand ce n'est pas optimum, eh bien, c'est vide. Voilà.
Ou même, ça peut devenir carrément obsolète.
Alors, c'est le troisième point, c'est la durée de vie d'un bureau. C'est le troisième T, c'est les travaux. La durée de vie d'un bureau, bah, c'est une trentaine d'années. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un taux d'obsolescence de 3% par an, si ça vit 30 ans.
Exact.
Donc, ça fait du 3% par an d'obsolescence. Et au bout de 7 ans, en moyenne, les entreprises déménagent.
Ouais.
Les ménages aussi, d'ailleurs. Ouais. Ou réaménagent. Donc, tout ça, c'est beaucoup de travaux à faire. Et à cela, à ces travaux, s'ajoutent effectivement les normes. Alors, quand les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro, bah, c'est évidemment le moment où on aurait dû faire tous les travaux.
Absolument.
Mais qu'est-ce que fait le voisin ? Le voisin ne le fait pas. Comme on passe son temps à comparer l'un par rapport à l'autre, bah, si l'autre ne le fait pas, moi, je ne vais pas le faire parce que l'autre, il est plus rentable que moi. Donc,
on aurait dû anticiper ?
Ah bah, clairement. Clairement.
Peu l'ont fait.
Bah, très peu l'ont fait.
En période de vache grasse, effectivement, on pourrait avoir tendance que l'esprit humain avec un bon vieux sens paysan aurait à la fois capitalisé et anticipé. La preuve est que non.
Non, on est plutôt à s'engraisser.
Et Xavier le sait bien, puisqu'il a connu quasiment toutes les crises depuis les 30 dernières années. Ce qui est inédit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, plus que jamais, bien évidemment, la prime est à la liquidité, et que force de constater que cette surproduction en même temps s'est fait aussi dans un cadre, disons-le, un peu spéculatif, dans lequel des survaleurs ont été pratiquées, bien évidemment avec l'assentiment d'une industrie qui se portait plutôt bien. Et moi, je la compare souvent, et j'aimerais bien avoir votre analyse sur la question, au fait que pendant les 10-15 dernières années, on a rasé gratis, on a toute une génération qui était biberonnée à de l'argent gratuit, et qu'à un moment donné, la brutalité de la réalité s'impose à tous, et qu'il faut revenir un peu plus de normalité. Est-ce que finalement, ce bouleversement n'est-il pas, Xavier, propice à des changements structurants et plutôt positifs pour l'industrie ?
Ben, tout à fait, parce que, je veux dire, il y a, comment dire, on avait un capitalisme extrêmement libéral. Ça, depuis le début des années 70, ça a commencé avec Milton Friedman, qui nous disait le seul objectif d'une entreprise, c'est de faire du profit. Donc on va optimiser le profit. On a eu ensuite Thatcher et Reagan qui nous ont bien fait comprendre que, en fait, le rôle de l'État, c'était surtout de ne rien faire. Et ça, bon, c'est un point de vue. Et puis, et à un moment donné, on se retrouve dans une situation où, d'un côté, l'État biberonné par le biais des taux d'intérêt quasiment gratuits, donc par les banques centrales qui accumulaient de la dette, et d'un autre côté qui disait, bon, vous savez, il faudrait peut-être quand même prévoir l'avenir, et notamment le réchauffement climatique, et donc parce que c'est une réalité qui va s'imposer. Bah, la réalité qui va s'imposer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, moi qui suis chef d'entreprise, je regarde mon compte d'exploitation de l'année.
Mais évidemment, mais bien sûr. Donc, comme le petit occupant, propriétaire bailleur, à qui on dit il faut mettre 25 000 euros de travaux, sinon on retire votre bien de la location, évidemment.
Oui, ça c'est... Et donc cette préférence pour le présent, elle est inhérente finalement au capitalisme libéral. C'est pas une critique, c'est un fait.
Préférence ou nécessité à être dans le présent et dans l'urgence de la situation.
Alors, j'aime bien la notion de préférence parce que ça renvoie à des fonctions d'utilité mathématique, mais la réalité, c'était presque une obligation. Et donc, par rapport à cela, on rentre aujourd'hui dans une nouvelle ère de capitalisme qui est régulé par l'État ou administré par l'État ou par la régulation. Bah oui, vous n'avez pas fait le boulot avant, maintenant il faut le faire, donc on va vous imposer. Et quand, pour reprendre l'exemple dont vous parlez, je vais vous empêcher de louer votre logement si vous ne faites pas les travaux nécessaires, bah typiquement, c'est quelque part, ça renvoie au droit de propriété. Et ce droit de propriété, on voit bien qu'il change. Et donc, de la même manière, bah, on va vous dire, vous ne pouvez pas louer votre logement en Airbnb absolument. Pendant plus de 120 jours de l'année, etc.
Absolument. Une entrave, effectivement, c'est la liberté du droit de propriété.
Moi je dirais une évolution.
Ah oui, d'accord.
Parce que c'est une évolution sociétale. Si vous voulez, les évolutions sociétales, en fait, elles sont très très lourdes. Elles sont très très lourdes. Sur les 200 dernières années qui ont marqué notre civilisation, bah, prenez le mariage, par exemple, ça n'existe plus.
Mais en fait, vous êtes en train d'écrire une nouvelle anthropologie urbaine.
Bien sûr. Je veux dire, le mariage n'existe plus. Le contrat n'existe plus. Le contrat synalagmatique qu'on signait entre les parties, la volonté des parties, a été remplacé par la loi. Et la loi vous régit totalement vos relations contractuelles. Le bail résidence principale, dit 89, oui. Régit. Le bail commercial régit. Et le troisième point, c'est le droit de propriété. Eh bien, votre droit de propriété, vous n'avez plus... Avant, vous disiez, pas de problème, si ça me coûte plus cher d'électricité, de chauffage, ça me coûtera plus cher, c'est mon choix. Maintenant, on vous dit non, il faut s'occuper des autres.
Donc ça veut dire... Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que la France de demain n'est plus une France de propriétaire.
Je vais citer le journaliste Guilbault qui avait dit une chose extrêmement intéressante. C'est finalement là où la morale est défaillante, la loi la remplace. Donc finalement, là où le bon ordre des choses aurait pu se mettre en œuvre, la loi est venue remplacer, finalement, ça. Je prends un exemple. Là, vous avez parlé de l'urgence climatique. Il n'a échappé à personne qu'on a été dans une urgence climatique de transformation très structurante de la société. C'est une nouvelle forme d'anthropologie à l'échelle de la planète. On le sait. Et bien évidemment, tout ça coûte un fric monstre. Et ça se fait aussi avec des... On le sait parce que nous, on a vécu cette génération, vous et moi. Open bar au niveau énergétique. Où c'était la foire d'empoigne dans les années 70. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du chemin qui était un type à col roulé qui se présentait toujours aux élections législatives et aux élections présidentielles qui disait « Attention, la terre est en train de brûler et vous ne vous en rendez pas compte. » On le prenait pour un doux rêveur et un écolo un peu bobo, force de constater qu'il n'avait pas tout à fait fait tort.
Alors, oui, tout à fait. Alors maintenant, vous faisiez référence, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on met fin à la notion de France de propriétaire. Pour moi, non, pas du tout. Absolument pas.
Le droit de propriété, au sens latin du terme,
les Français aiment ça.
Oui, un peu.
Mais tout le monde. Je veux dire, on est 58% propriétaires en France. On est en moyenne en Europe à 70%. À part les Suisses et les Allemands, dont on nous bassine en permanence en disant qu'ils sont entre 40 et 50%.
Oui, c'est vrai.
Le reste de l'Europe est plutôt à 70 ou 80%. L'Angleterre, qui n'est pas le pays le plus socialiste du monde, est à 65%. Et les États-Unis également. Je veux dire, le besoin de toi... Pas je vous tutoie, mais le besoin de toi, il est total toute sa vie. Maintenant, comment fait-on ? Comment fait-on dans une situation telle que l'on connaît aujourd'hui dans le logement, où le prix de vente est tel que ce n'est pas accessible pour la majorité des ménages, sauf être subventionné dans le logement social ou du type BRS, et où en même temps, il n'y a pas d'investisseur raisonnable qui peut se dire « je vais acheter des logements pour les louer », vu la faiblesse des rendements locatifs, parce que les loyers, évidemment, ne suivent pas l'évolution des prix de vente, ils suivent l'évolution des revenus. C'est cohérent. Et donc, à la différence d'une entreprise qui peut se dire le salarié rapporte beaucoup plus, bah, le problème, c'est que le salarié lui-même, il est payé un peu plus chaque année. Et pas... Bon, donc ça ne marche plus. Donc effectivement, quand un système devient dysfonctionnel, et le système de, aujourd'hui de, du logement est dysfonctionnel, il était maintenu artificiellement...
Ah oui, par des lois, par des supports...
Par des taux anormalement bas et l'allongement de la durée des crédits. Et en
puis,
même temps...
Et puis aussi une fiscalité qui était privilégiée pour certains.
Voilà.
Et puis voilà, donc ok. Ouais.
C'est terminé.
Oui, terminé.
C'est terminé.
Et on reste plus gratis.
C'est plus qu'on... Oui, c'est qu'il faut se réinventer. Donc il faut se réinventer, mais c'est très difficile de se réinventer quand ça fait 30 ans qu'on est dans le même modèle. Et 30 ans qu'on est dans le même... Parce qu'avant, il y a un peu plus de 30 ans...
Et c'est cette brutalité qui frappe les promoteurs en ce moment ?
Ah, bien sûr. Oui, bien évidemment. Parce que les promoteurs se retrouvent dans un effet de ciseau absolument terrible.
Ah, terrible, oui.
Parce qu'ils ont... Ils ont fait tout leur business plan sur la base de prix de vente à venir et finalement, les clients sont désolvabilisés. Et une fois de plus, cette rationalité, elle s'impose. Mais regardez dans le secteur de l'automobile. La voiture, il y a 15-20 ans, les gens achetaient leur voiture à crédit. Ça représentait 6 mois de salaire. On l'achète à crédit, chérie, on paye 20% par an du prix de la voiture pendant 5 ans. Voilà. Du jour où on a vu le prix de la voiture monter à 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois, 14 mois de revenus, ben les gens sont passés dans un autre système. Ils achètent une voiture sur deux aujourd'hui en France, dans le secteur, auprès des particuliers, se vend en leasing.
C'est vrai.
Et est-ce que les constructeurs automobiles sont-ils venus tendre la sébille auprès de l'État en disant « aidez-nous ». Oh là là, vous ne vous rendez pas compte, on va avoir que des voitures pourries. Ben non. Est-ce que regardez les comptes de Stellantis, vous allez voir ce que rapporte le LOA dans un modèle intégré comme celui d'un constructeur automobile. C'est une source de profit, c'est pas une source
ça,
de
coût. C'est une solution qu'on pourrait mettre en place pour l'immobilier.
Je suis très circonspect là-dessus.
Alors, il y a plusieurs différences. Il y a une différence émotionnelle extrêmement forte. Parce que c'est pas un logement, c'est pas une auto.
Oui, on en change pas tous les deux ans. Hein.
Non.
Et puis c'est un marqueur social. C'est un marqueur qui... Remarquez, vous me direz, la voiture, ça peut l'être aussi.
En tout cas, ça l'était.
Ça l'était, oui, tout à fait.
Mais la vraie différence fondamentale, c'est que, d'un point de vue purement économique et financier, c'est qu'une voiture, dans 10 ans, elle vaut zéro.
Ouais.
Alors que le logement, il aura plutôt tendance à s'apprécier.
C'est vrai, très juste.
Donc ça change... Ce qui n'aurait aucun sens, et au sens profond du terme, à faire de dupliquer le modèle du leasing automobile au logement. Mais par contre, vous avez, nous, on a la chance. En Angleterre, quand je dis qu'il y a 65% de propriétaires, il y a une bonne partie qui détient à travers des baux emphytéotiques. Et ça ne pose pas de problème, ils sont propriétaires, mais pendant une certaine durée. Et nous, en France, on a une chance énorme, c'est qu'on a en même temps des crédits à taux fixe. Donc on a les outils juridiques et financiers optimum pour changer de modèle. Prenez l'exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un bien qui vaut 300 000 euros. Vous avez envie d'un T3 à 50 mètres carrés en première couronne. 300 000 euros. En théorie, vous pouvez le louer 1 100 euros par mois. Si vous arrivez à le trouver.
Ouais.
Vous arrivez à le trouver, il n'y a plus grand monde qui va vous le proposer. Si vous voulez l'acheter, vous n'avez pas d'apport, ça va vous coûter 1900 euros de crédit. Pas de chance, vous gagnez 3500. Donc impossible.
Absolument.
Donc là, vous dites, ok, je viens avec, et c'est ce que je développe, je dis, ben moi je vous vends la propriété à travers un bail emphytéotique qui est un acte notarié, donc c'est un droit de propriété total, mais temporaire. Donc je vous vends ce bail emphytéotique de 25 ans, donc vous allez, et je vous le vends avec un paiement initial de 50% du prix. Donc au lieu que vous payiez 300 000, vous payez 150 000.
C'est une forme de viager avec une rente mensuelle.
Ah non, pas du tout. Bah, non.
150 000, ça parente à une forme de bouquet et d'une...
Non. Ne cherchez pas, d'analogie. Comme tout professionnel, à trouver quelque chose d'analogie, parce qu'on va se perdre. Non, la réalité, c'est que vous allez emprunter ces 150 000 euros comme vous auriez emprunté les 300 000, la seule différence, c'est que ça vous coûte la moitié, c'est-à-dire 950 euros.
C'est une forme de c'est du démembrement.
C'est du démembrement dans le temps.
Oui, dans le temps.
Mais pas dans l'espace, dans le temps. Et donc, vous allez payer 950 euros par mois à la banque. Vous allez payer effectivement en plus 1%, mettons, ou 0,1% par mois du prix de vente. Donc, ça va vous coûter 1 200 euros par mois. Ouais. Mais vous êtes chez vous. Le loyer, il augmente. Le crédit, il se rembourse. Maintenant, vous avez deux cas de figure.
Et 25 ans après, on fait quoi ?
Qui reste 25 ans dans son logement ? En première cour, dans
le plus grand monde aujourd'hui, mais...
Non, mais... Attendez, revenons. Le plus probable, c'est quoi ? Le plus probable, c'est que dans 8 ans, 10 ans,
je cède.
Vous vouliez partir. Moi, je m'engage à vous racheter. Je m'engage à vous racheter...
Au prix initial ?
Au prix initial, moins le temps que vous... Moins, en fait, 2% par an, le temps que vous avez consommé. Et je vous donne 50% de la plus-value sur les 150 000 que vous avez mis.
Ah, c'est pas bête.
Donc, je vais vous donner 135 000 euros.
Ah ouais.
Mais regardez combien vous devez à la banque. 90 000. Vous avez payé comme un loyer, vous repartez avec 45 000 euros. Ah, vous préférez payer un loyer ?
Non, c'est gagnant, c'est sûr.
Et maintenant, vous gagnez plus d'argent parce que vous avez monté, vous avez remplacé le chef. Vous avez remplacé le chef, vous avez un peu hérité de vos parents et vous vous dites, tiens, finalement, j'ai envie de l'acheter cet appart. Je suis toujours avec le même conjoint. Bon, peu probable, mais on ne sait jamais. Et vous avez toujours envie du même bien. Et bien, je vous vends la partie du bien que vous n'aviez pas. Au prix, évidemment, du nouveau prix. Mais vous avez acheté en deux fois et vous avez profité aujourd'hui du bien.
Mais attendez, Xavier, personne ne fait ça aujourd'hui ?
Si, moi.
Vous avez monté un...
Ouais.
C'est génial.
Ben là.
Comment ça s'appelle ?
Néoproprio.
Ah, c'est vous, Néoproprio ?
C'est moi.
Mais Xavier...
Ah ben ça...
Grégoire, on va ben parler. C'est vous, Néoproprio ?
Oui, bien sûr.
Ça a été lancé quoi ? Très récemment.
Oui.
C'est une super idée.
Ben, c'est s'adapter.
C'est une super idée.
C'est s'adapter à une réalité.
C'est une super idée, Néoproprio.
C'est... Je réinvente
oui, j'en ai entendu parler,
le parcours
j'ai...
résidentiel.
Alors, je suis assez... Moi, j'aimerais bien... Vous avez fait les premières opérations ?
On va faire les premières opérations avec de Mathieu Barre, au mois d'avril et au mois de mai.
Je veux absolument... C'est Xavier, génial. Faites-moi la promesse, absolument, de nous contacter. Dès que vous faites les premières opérations, c'est totémique. C'est totémique.
Merci.
C'est totémique, c'est parce que si ça prend, ça va devenir une révolution. C'est très important. J'avais entendu parler de ça, je ne savais pas que c'était vous.
Bah, si c'est nouveau, c'est forcément
moi. Bah, écoutez, je ne savais pas que c'était vous qui aviez... J'avais entendu parler de cette idée Néoproprio. Je vous le dis franchement, je reste pas sceptique, mais je voudrais vraiment voir dans le concret, mais dans le développement que vous venez de nous faire, c'est juste imparable, vous êtes d'accord.
Bah parce oui, que j'aimerais, c'est du bon
oui,
sens.
Oui, sauf que, Xavier, j'aimerais bien comprendre quelles sont les aspérités. Parce que forcément, il y a des défaillances au système. Il y a des failles au système. Qu'est-ce qui pourrait gripper cette machine ? Je l'entends complètement. Moi, ce que j'entends, c'est quoi ? L'appart, si je veux l'acheter, je ne peux pas l'acheter parce qu'il va me coûter 2000 euros de remboursement et je suis sur un taux de solvabilité qui ne peut pas. À 1200, je peux payer un loyer, mais je n'ai pas envie de payer un loyer. Pourquoi ? Parce que c'est du fonds perdu. Et en même temps, je me dis, bon, il faut que je les épargne. Donc, il y a un compromis entre l'épargne, court et moyen terme, et celui de la possession, de l'idée de possession de la propriété, qui est très français d'ailleurs. Je rappelle, je vous fais pas l'article Liberté, Égalité, Propriété, au tout début, avant de se remplacer par Fraternité. Ensuite, au bout d'un certain temps, on va dire, et grosso modo, au bout de 8 ans, en moyenne, c'est 7 ans. Hein, la mutation, c'est 7 ans. C'est une moyenne globale, avec des différences pour certains. Mais au bout de 7 ans, je quitte. Vous engagez finalement à me reprendre ma participation, moyennant un calcul de déduction qui fait que, de toute façon, entre le périmètre de ce que je dois rembourser à la banque par anticipation, parce que j'ai pris un crédit sur 15 ou 20 ans, fait que, de toute façon, dans tous les cas, j'ai une plus-value, en fait. C'est ça que je comprends. C'est bien ça que j'entends ?
C'est tout à fait ça.
Indépendamment ?
De l'évolution des prix.
Donc, en fait, vous êtes... Attendez, que je comprenne bien. Je suis pas un expert en économie comme vous l'êtes. Vous venez d'inventer un produit immobilier contracyclique ?
C'est pas contracyclique, c'est juste s'adapter à l'évolution de la société.
Des prix.
Oui, d'accord, mais c'est pas contrat, c'est ni pro ni contrat, c'est acyclique. C'est moi, je vous permets aux gens d'accéder à la propriété.
Alors, allons plus loin. Acyclique, ça veut dire qu'en fait, vous venez d'inventer un produit qui est imperméable aux fluctuations des prix du marché et qui finalement, sur le plan technique, fonctionne dès le départ, en fait.
Ben oui.
Dans le cadre du contrat.
Il ne faut pas qu'il y ait de trop grosses variations du marché, quand même.
Justement, comment on fait ? Sur de l'ancien, comment ? Concrètement ?
Je vais commencer avec du neuf.
Passionnant. Hein.
Je vais commencer avec du neuf, parce que c'est beaucoup plus facile.
Pourquoi ?
Je suis un peu feignant.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que si je le fais sur de l'ancien, vous venez, vous voulez acheter l'appartement du voisin d'en face, qui vous plaît bien, etc. Mais je ne sais pas combien il vaut. C'est vous êtes amoureux, par définition, de l'appartement d'en face, donc vous allez me pousser à l'acheter. C'est beaucoup de technologie. Par contre, enfin de la tech pour pouvoir identifier, il faut des applis, tout ça, enfin bref. Par contre, dans le domaine de la promotion immobilière, j'ai beaucoup de logements à vendre sur un même endroit. Mmh. Donc la commercialisation de ces logements, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a déjà des... avec le promoteur, on se met d'accord, on fait de la co-commercialisation. Ton client peut acheter en pleine propriété, bien évidemment, tu lui vends. Tu n'arrives pas à...
Oui, néo-proprio, ce n'est pas une solution finale, c'est une solution alternative.
C'est une solution de palier, c'est, si vous voulez, c'est un palier. Aujourd'hui, vous avez...
Il faut dire ça au promoteur, c'est une martingale.
Eh bien, écoutez, les promoteurs, j'en ai beaucoup qui nous écoutent, et j'en ai beaucoup qui travaillent avec nous.
Nexity travaille avec vous, pour vous convaincre?
Nexity... Alors, après, vous imaginez bien que si je vends 300 000 euros... si je vends un appartement qui vaut 300 000 euros à 150 000, il faut que j'ai des investisseurs qui se disent « j'ai un intérêt à investir ». Donc, qu'est-ce que je dis à l'investisseur? Je lui dis « écoute, tu as 300 000, tu récupères 150 000 tout de suite ». Donc, en fait, tu n'investis que 150 000. Je caricature. Oui. Hein. Bon, là-dessus, je vais toucher la redevance. Donc, les fameux 300 euros de tout à l'heure, ça va me faire 3% de revenus. Ouais. Parce que je n'ai financé que la moitié.
Ouais.
Donc, en fait, ça fait... Et lui, il me verse, le néo-propriétaire me verse 1,2% des 300 000. Ce qui fait 3% de 150 000. Bon. Donc j'ai un revenu qui n'est pas très important, mais je n'ai aucune charge. Puisqu'en fait, c'est vous, le néo-propriétaire qui avait acquis le bien, qui êtes propriétaire, donc qui payait l'entretien, il n'y a pas de gestion administrative, il n'y a pas de taxe foncière, donc c'est 3%.
Il n'y a pas de fiscalité?
Pas de fiscalité non plus. Ça, c'est de par la loi. Et dans 10 ans... Quand vous venez, je vous rachète à 130 000 ou 135 000 ou 140 000 parce que le prix de l'immobilier a augmenté. Moi, les 150 000 que j'ai mis, si l'immobilier augmente de 2% par an, mécaniquement, ça fera 180 000. Est-ce que vous avez acheté 150 000? Je voulais racheter 140 000. Et ça vaut également 180 000. J'ai un effet de levier gratuit. C'est vous qui vous êtes endetté, c'est pas moi. Et donc, je vais avoir un TRI de l'ordre entre 6 à 8%. Donc, un logement devenu rentable pour des investisseurs institutionnels et qui sont en plus dégagés de toute la gestion locative, du risque d'image, parce que objectivement, je n'ai pas de locataire en face de moi, j'ai des propriétaires. Donc, un locataire, quand il ne paye pas, c'est terrible pour un institutionnel parce qu'on sait non seulement qu'il ne peut pas le mettre dehors, mais qu'en plus, il va être en première page de l'IB. Là, vous avez acheté. Si vous ne payez pas, c'est que vous ne payez pas votre crédit immobilier. Et
que je comprenne, vous avez eu cette idée. Quand? Comment?
J'ai eu cette idée...
Vous avez été à la tête de grandes entreprises françaises. Très grosses entreprises françaises. La française n'est quand même pas petite. Et vous avez eu cette idée, vous auriez pu aller jouer au golf
Je joue trop mal.
Expliquez-moi comment... Finalement, dans l'étape de carrière dans laquelle vous êtes, vous avez eu cette idée incroyable.
Bien,
c'est génial. Hein,
tout simplement parce que toute ma vie, quand j'ai changé 3 fois de métier, et je suis toujours allé dans des situations où les gens ne croyaient plus. Ne croyaient plus, se disaient « c'est fini, tout va s'effondrer, etc. » Et c'est toujours à ce moment-là qu'il faut casser le modèle. Or, le logement en tant que tel... Je ne supportais pas l'idée de cette désespérance et de voir finalement toute une génération qui était en train d'être sacrifiée. Moi, quand je suis sorti de mon école, en 1981, après, bonne année, l'année d'après, je pouvais acheter dans Paris 40 mètres carrés dans le 5e sans apport.
Impossible.
Bon, aujourd'hui, tu prends la même école, prenez la même personne... on serait à 3 en coloc.
Ouais.
Bon, c'est très social parce que 3 en coloc, c'est peut-être plus rigolo que
dans 40 mètres carrés, c'est pas génial quand même.
Oui, mais c'est pas un modèle de société.
Non.
C'est pas un modèle digne de notre société.
Non, je suis tout à fait d'accord.
Et donc cette situation, on peut s'en plaindre, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du logement social pour 70% de la population ou est-ce qu'on réinvente le parcours résidentiel?
On va devoir nous quitter, puisque effectivement, moi je resterai.
On pourra en parler pendant des heures.
Je suis très content, je vous le dis, les amis, parce que Néo Proprio, c'est quelque chose dont on avait vu, regardé. Je n'étais pas hyper convaincu, mais je ne savais pas que c'était vous, Xavier. Et je vais vous dire.
Ça vous rassure ?
Mettez-nous ça sous épauration avec de Mathieu Barre. C'est Philippe Young qui était avec vous. Je veux le voir. Je veux le voir concrètement. Parce que ce que vous avez fait, si les promesses sont tenues, c'est une révolution. Et vous le savez. Vous le savez.
C'est pour ça que je le fais.
Et vous ne boudez pas votre plaisir d'ailleurs pour le faire. Et nous, on s'en fera, si vous voulez bien, la chambre d'écho partout dans les territoires. Et c'est une excellente chose. D'ailleurs, j'adresse ce message, si vous voulez bien, si vous en êtes d'accord, à nos amis promoteurs aujourd'hui qui sont très ébranlés par le système, qui sont quelque part tétanisés finalement dans leur réflexion, puisqu'effectivement ils sont frappés très durement par une crise. Vous savez, quand on est tétanisé, on ne réfléchit plus vraiment sereinement. Et vous, Xavier Lépine, vous nous invitez finalement à ce type de réflexion, parce que ce que vous dites finalement, si je devais synthétiser, c'est que tout bouleversement est propice au changement, et c'est exactement ce que vous êtes en train d'écrire. Merci Xavier Lépine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.